vous ou quelqu'un que vous connaissez étudier une nouvelle langue? Le concours national des langues SBS 2018 est ouvert jusqu'au 18 novembre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sbs.com.au/nlc18.
Et d'abord, les grands titres de ce mardi. L'opposition fédérale se dit prête à des compromis avec le gouvernement afin de faire sortir certains demandeurs d'asile du centre de détention de Nauru. Les tensions au sein du gouvernement fédéral, les membres de la coalition libérale sont en colère après la perte très probable du siège de Wentworth lors de l'élection partielle de samedi dernier. L'opposition fédérale se dit prête à des compromis avec le gouvernement afin de faire sortir certains demandeurs d'asile du centre de détention de Nauru. De nouvelles pressions sont exercées sur le gouvernement pour que les enfants, demandeurs d'asile, malades et leurs familles soient ramenés de Nauru. Un projet de loi au Parlement depuis 2 ans permettrait à certains demandeurs d'asile et à leurs familles d'être réinstallés en Nouvelle-Zélande. Mais une partie de ce projet de loi stipule que ces personnes ne seraient alors jamais autorisées à entrer en Australie. La chef adjointe de l'opposition, Tania Plibersek, a déclaré que même si l'opposition pense toujours qu'il est inutile d'interdire à ces personnes de venir en Australie, il est plus important que certains demandeurs d'asile quittent Nauru.
Labor is prepared to compromise with the government because we get it. We understand that it is beyond time that these people who have been reported by their doctors and other support workers to be in the most desperate circumstances, it's beyond time that we find a new home for these vulnerable people.
La chef adjointe de l'opposition fédérale, Tania Plibersek. Le député indépendant Andrew Wilkie a présenté un projet de loi au Parlement hier pour que ces demandeurs d'asile soient emmenés en Australie pour un traitement médical.
It can't be just trickling some kids off, you know, a few here, a few there, a few next year. Any sort of New Zealand solution for it to be acceptable must include, this is as a bare minimum, all children and their families moving as soon as possible in one group.
Voilà, c'était Andrew Wilkie, le député indépendant. Des rassemblements ont lieu aujourd'hui, ce mardi, autour de l'Australie, alors que les travailleurs espèrent des augmentations de salaire. Selon le Conseil australien des syndicats, les CTU, 150 000 personnes seront dans les rues de Melbourne et des milliers d'autres à Sydney, Darwin, Wollongong, Cairns, Townsville et ailleurs. Les syndicats veulent que les travailleurs obtiennent des augmentations de salaire équitables, mais la Chambre de commerce et l'industrie australienne a déclaré que les syndicats profitent pour tenter de prendre le pouvoir au détriment des travailleurs. Écoutez Ben Morton, le député de la coalition libérale, qui déclare que le chef de l'opposition, Bill Shorten, en profite aussi.
Bill Shorten thinks he's on a absolute slide into the prime ministership. And we'll see today the people that will be pulling Bill Shorten's strings. They'll be out there protesting. It'll be the union movement that will be out there protesting today that will be Bill Shorten's masters.
Ben Morton, le député du Parti libéral. Écoutez maintenant la réaction de la secrétaire de l'ACTU, Sally McManus.
It's unfortunate in a way that we even have to do it because we've been banging the drum on this issue of insecure work and low wages now for a good 2 years. And the thing is, the government's not listening. And so that's why we, the trade union movement, are the ones that are going to bang the drum and say it loudly, we need to change the rules.
Les tensions au sein du gouvernement fédéral, les membres du gouvernement sont en colère après la perte très probable du siège de Wentworth lors des élections partielles du week-end dernier. Des discussions internes sont déjà en cours pour voir qui est responsable de la défaite. Elle va coûter au gouvernement sa majorité à la Chambre des représentants. Mais en ce qui concerne les répercussions politiques, Michael Sukkar du Parti libéral a déclaré à Sky News que Wentworth n'est pas une circonscription comme la plupart des autres en Australie.
You know, no political party and certainly not the Liberal or National parties would ever write off any seats or say that one seat's more important than another. But it is a very unusual seat. If you look at the socioeconomics of it, if you look at certainly the median income, the wealth, it is an unusual seat. And for every Wentworth, there's 5 other seats, mortgage bout outer suburban seats that are the sorts of seats that that the Liberal Party will seek to appeal to.
Michael Sukka du Parti libéral. Les opposants du gouvernement fédéral profitent de cette défaite de l'élection partielle de Wentworth pour tenter de modifier le programme d'action de la politique fédérale. Mais à part la colère suscitée par le départ de l'ancien Premier ministre Malcolm Turnbull, les raisons politiques de la défaite du Parti libéral lors de cette élection partielle, axée sur des questions telles que les demandeurs d'asile et le changement climatique, le député des Verts Adam Bent déclare que le gouvernement doit tirer les leçons de la défaite de Wentworth et revoir les politiques radicales sur le changement climatique et de la politique énergétique privilégiée par l'ancien Premier ministre Tony Abbott.
If Liberals think that the lesson from Wentworth is that you've got to take additional money away from schools and hospitals and put it into a failed policy that is expensive and that is going to be offset by rising pollution from coal-fired power stations, then they haven't learnt the lessons from Wentworth at all.
Adam Bent, le député des Verts. Hier, le Premier ministre Scott Morrison a présenté des excuses et a demandé pardon aux victimes d'abus sexuels après la publication du rapport de l'enquête de la Commission royale sur cette question. On écoute la réaction de Leonie Sheedy de Care Leavers Australia Network. Elle est sur Radio France Internationale.
All very mixed emotions. On one level,
les sentiments sont partagés. D'un côté, c'est formidable que l'Australie ait reconnu que des enfants ont été abusés sexuellement dans des orphelinats, des foyers ou des familles d'accueil. Mais d'un autre côté, mon frère et ma sœur, qui ne sont plus en vie, n'ont pas pu assister à ces excuses nationales. Et ce, comme 35 de mes amis abusés durant l'enfance dans les institutions du pays et qui sont décédés depuis la mise en place de la commission d'enquête royale. Je trouve ça extrêmement triste qu'il n'ait pas été là aujourd'hui pour assister à ses excuses. Je pense que nous ne saurons jamais combien il y a eu de victimes. Beaucoup d'entre elles n'ont jamais témoigné devant la commission d'enquête. D'autres n'ont même pas été au courant que cette commission existait. La nouvelle n'est malheureusement pas parvenue jusqu'aux victimes profondément traumatisées. Certains n'ont pas réussi à témoigner. D'autres sont morts sans avoir jamais pu raconter les abus sexuels dont ils ont été victimes.
Leonie Sheedy de Care Leavers Australia Network sur RFI. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que, je cite, « rien ne resterait secret dans l'enquête sur le meurtre de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien tué au sein du consulat saoudien à Istanbul récemment ». Israël accuse le Hezbollah d'installer des postes d'observation dans le sud du Liban, près de la frontière, pour mener des attaques contre l'armée ou des civils israéliens. Reportage Guillaume Deltey pour RFI.
Officiellement, il s'agit d'un poste d'observation d'une organisation écologique baptisée Green Without Borders. Il est situé près de la ville d'El Adessa, juste en face du kibboutz israélien de Misgav Am. Mais cette ONG n'est pas là pour planter des arbres, c'est une façade, assure un officier du commandement nord de l'armée israélienne. Selon lui, il s'agit bien d'un poste d'observation du Hezbollah. Il en veut pour preuve l'équipement qui se trouve sur place et l'attitude des hommes dans ce poste d'observation. Ils se comportent de manière militaire, assure-t-il. Cette ONG avait déjà été dénoncé l'an dernier comme une couverture du Hezbollah par l'armée israélienne qui avait alors révélé l'existence de 4 postes d'observation. Mais la FINUL, la mission des Nations Unies au Sud-Liban, n'avait alors pas trouvé de personnes armées non autorisées sur les sites. Israël maintient donc ses accusations à l'égard de cette organisation. L'armée affirme que le Hezbollah utilise ses positions pour obtenir des renseignements sur ses activités afin de pouvoir ensuite mener des attaques contre les soldats ou les civils israéliens. La présence du Hezbollah dans cette région serait contraire à la résolution 1701 de l'ONU et Israël demande à la FINUL d'inspecter ces sites. Pour l'instant, elle ne l'a pas fait, regrette ce haut gradé.
Guillaume Deltey pour RFI. En Afrique, au Cameroun, le président Paul Biya, 85 ans, est réélu pour un 7e mandat. Le Conseil constitutionnel a proclamé hier, lundi, les résultats officiels de la présidentielle du 7 octobre dernier. Paul Biya est à la tête du pays depuis 35 ans. Reportage Karine Franck pour RFI.
Le président Paul Biya est vainqueur dans 9 régions sur 10. Il l'emporte largement dans les 3 régions du Septentrion. 79% des suffrages exprimés dans l'Adamawa, 89% dans l'extrême nord, 81% dans le nord. Il l'emporte aussi largement dans le centre et dans l'est et obtient 92,91% des voix dans son fief du sud. Seul le littoral, dont le chef-lieu est Douala, la capitale économique, échappe au président sortant, le candidat de l'opposition Maurice Kamto, y est donné vainqueur avec 38,60% des suffrages. Maurice Kamto, qui selon ses résultats officiels, arrive en deuxième position avec 14,23% des voix. Cabral Libi prend la troisième place avec 6,28% des suffrages. Enfin, à noter le très mauvais score de Joshua Aussi du SDF, qui était pourtant le principal parti de l'opposition camerounaise, seulement 3,35% officiellement. Tous ces chiffres, les opposants les contestent, ils parlent tous de résultats fabriqués, d'élections volées. Depuis ce matin, un fort déploiement sécuritaire est visible à Yaoundé et à Douala, où la police anti-émeute et la gendarmerie sont déployées, notamment au niveau des grands carrefours.
Karine Franck pour RFI. En Chine maintenant, où l'Alliance française de Pékin célébrait hier, lundi, ses 20 ans d'existence. Reportage Stéphane Lagarde pour RFI.
Mesdames et messieurs, veuillez prendre place, s'il vous plaît.
Un accueil en français, forcément, devant le grand amphithéâtre archi-plein de l'Université des langues et cultures de Pékin. 20 ans d'Alliance française dans la capitale chinoise, ça se fête, même s'il reste du chemin à parcourir, nous dit Thierry Lasserre, délégué général des alliances françaises en Chine et en Mongolie.
Alors aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 43 000 apprenants de français dans les alliances françaises, ce qui correspond globalement à un tiers des apprenants du français en Chine. Alors c'est énorme, voilà, un autre tiers pour les universités, puis un tiers dans un tas de petites écoles privées, mais en fait, c'est en même temps très très peu à l'échelle de la Chine.
8 millions de Chinois apprennent l'anglais, 1 million le japonais et 140 000 le français. Dans l'amphithéâtre, les ambassadeurs de France et d'Algérie, les représentants de Belgique et du Canada, et des étudiants d'hier et d'aujourd'hui. Wu Kan, représentant de commerce, 41 ans.
J'ai découvert une autre façon de vivre et puis l'autre bout du monde aussi. C'est marrant parce qu'il y a 20 ans, quand je suis quitté, c'était par Alliance française de Shanghai. Cette année, c'est 20 ans d'anniversaire de l'Alliance française de Pékin.
L'orchestre symphonique du lycée, de l'Institut du pétrole, les étudiants qui rejouent le Petit Prince, voilà qui rappelle des souvenirs à Chuchi, qui a eu quelques soucis avec les conjugaisons et le genre à l'université en France.
Par exemple, les ceintures, c'est féminin, c'est ça ?
La ceinture, oui.
Oui, la ceinture. Mais c'est les hommes qui apportent les ceintures, c'est ça ?
C'est les hommes qui portent la ceinture et c'est féminin.
Oui.
Le féminin, le masculin, malgré une fiscalité et une législation complexe, comme disent les diplomates, l'Alliance française enseigne la langue de Molière aux Chinois depuis 20 ans avec une augmentation exponentielle du nombre des apprenants souhaitant passer le DELF, le diplôme d'études en langue française.
Le reportage de Stéphane Lagarde pour Radio France Internationale. Un rappel des grands titres de ce mardi, l'opposition fédérale se dit prête à des compromis avec le gouvernement afin de faire sortir certains demandeurs d'asile du centre de détention de Nauru. Les tensions au sein du gouvernement fédéral, les membres de la coalition sont en colère après la perte très probable du siège de Wentworth lors de l'élection partielle de samedi dernier.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Êtes-vous inscrit au concours national des langues SBS 2018 ? Le concours est ouvert à toute personne apprenant une nouvelle langue jusqu'au 18 novembre. Pour plus d'informations, visitez sbs.com.au/nlc18.